ménage-toi. 93.8 Radio Zone. Le mercredi de 10h à midi. Avec nous en direct, tous les mercredis matins, vous rencontrerez des femmes. Nous parlerons cinéma, théâtre, lecture, de quoi nourrir vos loisirs. Remue-ménage, des histoires à détraquer vos électroménagers. Notre coup d'œil sur les médias. Et le memento de tout ou presque toutes les activités et manifestations intéressantes de la semaine. Ménage-toi, 93.8, une émission proposée par le Collège du Travail, réalisée par Marianne Erny, Adage Desgiorgi et Catherine S. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Ménage-toi sur Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, spécial Eaux Vives. Nous nous baladerons dans le quartier des Eaux Vives. Ensuite, notre memento de tout ou presque tout ce qu'il faut faire dans la région. Et pour conclure, notre billet média. Aujourd'hui, le comité contre le viol.
Cette semaine, effectivement, spéciale quartier des Eaux Vives dans Ménage-toi et qui occupera une place plus importante que nos premiers thèmes habituels de la première heure puisqu'il durera environ une heure et demie. C'était l'idée de mieux connaître la vie d'un quartier et de donner la parole à ses habitants. Et bien sûr, nous nous sommes tout particulièrement intéressés à la façon de vivre des femmes aux Eaux Vives. C'était aussi l'occasion de faire mieux connaître Ménage-toi et Radio Zone. Je me suis promenée dans le quartier des Eaux Vives et j'y ai trouvé toutes sortes de petits commerçants que l'on trouve rarement ailleurs, tels que des antiquaires et qui ne sont pas de luxe, de petits magasins de vêtements et de chaussures dont on se demande comment ils font pour continuer à survivre, des cordonniers, des cinémas, des librairies, de multiples bistrots et restaurants aux spécialités internationales, etc., etc. Je savais qu'il existait aussi une maison de quartier, un groupe d'habitants et des enseignants avec plein de projets pédagogiques intéressants. Mais j'ai eu la très grande chance de faire la connaissance de Maria et Daniel, toutes les deux mères de famille, qui ont accepté de m'emmener dans les lieux qui leur semblaient représentatifs de la vie du quartier des Eaux Vives. Daniel est avec nous en direct ce matin. Bonjour Daniel. Et Maria, elle est restée avec les enfants, mais elle nous écoute, c'est sûr. Bonjour Maria sur les ondes. Nous avons aussi avec nous au studio Valérie Dale, qui est animatrice à la maison de quartier. Bonjour Valérie. Et nous attendons bien sûr vos téléphones, habitantes des Eaux Vives ou d'ailleurs bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler jusqu'à 11h30 pour évoquer les Eaux Vives, pour poser des questions auxquelles pourront sûrement répondre Daniel et Valérie. Alors notre numéro de téléphone, 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Je répète, 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Mais tout de suite, emmenés par Maria et Daniel, commençons notre périple dans le quartier. Lundi matin à 8h30, nous étions au jardin d'enfants de Frontenay, où deux jardinières d'enfants, Anne et Sylvie, nous ont accueillis.
Alors voilà les toilettes, qui ne sont pas adaptées à l'âge des enfants. Hein, on peut voir, les toilettes sont beaucoup trop hautes, ce qui fait qu'il y a toujours un adulte qui les porte et qui les pose sur les toilettes. Il y en a souvent un ou deux qui ne marchent pas. C'est pas chauffé. Alors, déjà, ce matin, il ne fait pas très chaud, mais en plein hiver, vous pouvez imaginer la température qu'il fait.
Il n'y a pas d'eau chaude. C'est éloigné du local où les enfants sont réunis. Donc, il faut les raccompagner jusque-là, en plus. Autrement, ils sont obligés de traverser le couloir qui est commun avec toute l'école.
Et le problème de l'eau chaude, c'est un problème majeur parce qu'on a souvent, quand l'après-midi des enfants a changé, et il faut de l'eau chaude hein, quand il faut les nettoyer. Ah, c'est une deuxième salle qu'on a à disposition depuis l'année. Et bon, on la laisse assez libre, avec peu de meubles pour avoir en fait de la place pour bouger. Hein.
Quel type d'activité vous faites là? Il y a des matelas, il y a des coussins, des tapis.
Alors on vient des fois en fin de matinée ou en fin d'après-midi et on laisse les enfants jouer librement. Et parfois, on organise d'autres activités de mouvement. Ça peut être des jeux, des rondes, des rythmiques, différentes choses.
Daniel, toi qui travailles au comité de la Grenade, est-ce que les lieux du jardin d'enfants et de la garderie de Frontenay ressemblent à ceux de la Grenade?
Non, c'est très différent. À la Grenade, c'est un appartement entier, donc il n'est pas coupé. Donc les sanitaires font partie de l'appartement, les salles sont conjointes. Donc se touchent et les enfants n'ont pas besoin de sortir dans un couloir pour entrer dans une autre salle. En même temps, les salles sont quand même un petit peu moins grandes que par exemple cette salle de jeu. Mais ils ont aussi le jardin, donc le jardin à leur disposition devant qui a été un petit peu long à obtenir et à mettre, à aménager. Mais sinon, disons que maintenant c'est chose faite. Et l'espace est quand même là et c'est plus pratique peut-être pour changer de salle, pour les toilettes.
Sylvie, les enfants ils jouent ici dans le jardin d'enfants de Frontenay?
Dehors, ils jouent dans le préau de l'école, mais il faut voir que les enfants de l'école n'y soient pas. Ou on a un petit jardin à disposition, mais qui donne sur le carrefour route de Frontenay rue du 31 décembre, alors vous imaginez le bruit.
Daniel, toi, non seulement tu me guides dans les eaux vives, mais en plus, tu es aussi liée au jardin d'enfants.
Oui, bonjour. Je fais effectivement partie du comité du jardin d'enfants de la Grenade qui se trouve dans le bas du quartier.
Quels sont les besoins au niveau de la petite enfance dans le quartier? Et est-ce que soit le jardin d'enfants de Frontenay, soit celui de la Grenade, est-ce qu'il satisfait tous les besoins des mères et des familles au niveau des enfants? Sinon, quels problèmes se posent?
Oui, effectivement. Bon, alors on peut dire que les deux jardins d'enfants ne répondent pas aux besoins du quartier, en fait, car chaque jardin d'enfants accueille environ une vingtaine d'enfants le matin et une vingtaine d'enfants l'après-midi. Et nous avons des listes, je crois, autant l'un que l'autre, nous avons des listes d'attente très importantes, même une année, voire deux ans à l'avance. Chez nous, au jardin d'enfants de Frontenay, pour le matin, nous prenons les inscriptions une année à l'avance. Et vraiment, septembre, fin octobre, nous sommes complets. Mais pour la garderie, donc l'après-midi, c'est un petit peu différent. Nous les prenons 6 mois à l'avance.
Mais je voulais juste ajouter qu'on trouvait important de ne pas prendre non plus trop longtemps à l'avance pour que des nouveaux arrivés dans le quartier aient quand même une chance d'avoir une place dans le jardin.
C'est justement une chose dont le jardin d'enfants de la Grenade se rend compte aussi, parce que les inscriptions sont pleines, donc jusqu'en 1990 au jardin de la Grenade, pour le jardin d'enfants. Et comme il y a une nurserie à la Grenade qui accueille des nourrissons depuis l'âge de 6 mois environ, ces enfants sont parfois inscrits au jardin d'enfants, à la garderie et au jardin d'enfants, déjà lorsqu'ils arrivent en tant que nourrissons, ce qui fait que les inscriptions sont forcément closes, au moins 4 ans ou 3 ans à l'avance. Ça pose un problème.
Il y a une association qui s'est créée, qui est partie de la maison de quartier des Eaux Vives, dont plusieurs personnes faisaient partie et on s'est vu régulièrement, on a travaillé pour essayer de convaincre les autorités d'ouvrir quelque chose et ça n'a abouti à rien. Pour finir, les gens étaient découragés et il faut signaler qu'il y avait très peu de parents dans ce groupe, c'était surtout des professionnels et il aurait fallu peut-être qu'il y ait plus de soutien des parents.
Les comités de crèche, ils regroupent qui? Les comités de jardin d'enfants, ils regroupent qui? C'est géré par qui? Daniel, Maria, tu fais partie du comité du jardin d'enfants de Frontenay, toi?
Oui, Le comité est composé des jardinières d'enfants, quelques parents, et puis la trésorière, et puis je crois que c'est tout.
La
secrétaire aussi. Il y a une secrétaire qui...
Puis les parents se proposent ou bien comment ça se passe?
Bon, moi, on m'a proposé parce que j'ai eu mes enfants avant et puis j'aurai un enfant dans 2 ans ou dans 1 année. Et on me l'a proposé, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les autres. Je pense qu'on leur propose et puis ils acceptent ou ils acceptent pas selon leur disponibilité.
Toi, Daniel, tu es au comité du Jardin d'enfants de la Grenade. C'est le même principe?
C'est exactement le même principe. C'est donc une association de parents, d'élèves, de jardins d'enfants dont tout parent fait partie et tout parent peut se proposer de participer à la gestion et puis à l'organisation, disons, à la vie du jardin d'enfants. Et je trouve plus intéressant de participer activement que de regarder passivement ce qui se fait, disons, par rapport à ses enfants même. Pour moi, c'était la présidente qui m'avait proposé, que je connaissais un peu, qui m'avait proposé d'entrer au comité. Et je trouvais que finalement, c'était normal que quelques parents, enfin en tout cas, que ça intéresse, disons, fasse partie du comité, que ce soit pas seulement un groupe entre les jardinières et le personnel, donc, et une présidente ou quelques personnes. Il faudrait même que ce soit qu'il y ait plus de gens.
Alors, peut-être au comité du Jardin d'enfants de Fontenay, vous affrontez quel problème en ce moment?
Mais écoutez, notre grand problème majeur, en fait, c'est le relogement du Jardin d'enfants de Fontenay, parce qu'en fait, à l'époque, en 83, nous savions très bien que d'ici quelques années, quand l'école serait entièrement refaite, nous serions amenés à déménager. Et bon, c'est un provisoire qui dure justement et qui commence à être bien, bien pesant et très gênant.
Au comité de la Grenade, quels sont les problèmes du moment?
Les problèmes du moment sont, je crois, plus ou moins résolus. C'est peut-être revoir l'organisation des inscriptions à l'avance, essayer de toucher plus de gens pour faire partie du comité. Mais disons, nous avons eu les 2 dernières années d'énormes problèmes pour l'aménagement du jardin.
L'horaire d'un jardin d'enfants garderie, c'est quoi?
Le jardin d'enfants, donc nous prenons les enfants le matin à partir de 3 ans. C'est à peu près le même groupe d'enfants qui revient chaque matin. Nous sommes ouverts de 8h à midi. Les enfants arrivent à peu près jusqu'à 9h et repartent à partir de 11h. Et l'après-midi, garderie, nous prenons les enfants à partir de 2 ans. Ils sont plus petits. Et là aussi, ils ne viennent pas, ils sont pas dans l'obligation de venir toutes les après-midi. Là, ils peuvent choisir aussi les après-midi qu'ils veulent venir. Et la garderie est ouverte de 1h30 à 5h30.
Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Qu'est-ce qui te plaît dans le Jardin d'enfants de Frontenay?
Je trouve que ça fonctionne sur un système pédagogique qui permet à l'enfant de s'exprimer. On regarde beaucoup l'enfant lui-même, en soi, chacun, individuellement. Je trouve que on travaille avec beaucoup d'enthousiasme et ça c'est peut-être le premier point. Depuis des années c'est la même chose, il y a beaucoup d'enthousiasme, on essaye de s'imaginer chaque fois des nouvelles choses, de changer constamment pendant l'année, on fait des sorties avec les enfants, on fait des tas de choses que je trouve vraiment très importantes pour leur âge.
C'est une structure qui est tout à fait indispensable pour la socialisation des enfants. Enfin, je trouve que en tout cas, mes 2 enfants ont fait d'énormes progrès le temps qu'ils ont passé au Jardin d'enfants de la Grenade et que le système pédagogique est justement les prépare très bien à se développer, le développement individuel, de même que, disons, à se mouvoir en société, ce qu'ils devront faire à l'école, donc apprendre à être bien dans un groupe. Et je trouve que c'est vraiment une structure qu'il faudrait développer, peut-être au niveau du quartier, en tout cas qu'il y en ait une de plus, peut-être qu'il fonctionne moins sur un système d'inscription fixe, mais qu'il soit plus ouverte à différents enfants, qui puissent venir d'un jour, mais pas à l'autre, enfin, je ne sais pas, mais...
Le fait d'avoir un jardin d'enfants où je peux les envoyer, ou une garderie où je peux les envoyer de temps en temps, c'est vraiment de l'or, j'entends. Je ne pourrais pas faire autrement. Je ne pense pas que le jardin d'enfants, c'est un luxe qu'une femme qui ne travaille pas à l'extérieur, mais qui quand même travaille à la maison, ce n'est pas un luxe qu'elle se donne, mais c'est une nécessité absolue. On ne peut pas vivre sans. Comme les choses sont aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il est concevable de ne pas se donner la possibilité de faire son travail à la maison, un peu aussi sans les enfants, parce que souvent il y a des choses qui sont impossibles à faire avec les enfants dans les pattes tout le temps.
Alors Sylvie a évoqué dans notre ce qu'elle nous disait tout à l'heure, l'association pour l'ouverture d'une structure d'accueil pour les enfants aux eaux vives. Valérie, est-ce que tu pourrais nous donner des précisions sur cette association, s'il te plaît?
Alors effectivement, au sujet des crèches-garderies, il existe une association qui s'est créée aux eaux vives dans le but de faire ouvrir le plus rapidement possible une structure d'accueil pour les enfants d'âge préscolaire. En effet, les demandes de placement sont extrêmement nombreuses dans ce quartier, comme dans beaucoup de quartiers de la ville d'ailleurs. Et comme vous l'avez entendu, les jardins d'enfants, garderies ainsi que la crèche des eaux vives, qui sont subventionnés par la ville, affichent tous complets. Il existe une garderie privée qui s'est ouverte suite à l'action de cette association, mais les coûts y sont relativement chers comparés aux garderies subventionnées, et le personnel n'est pas sélectionné sur les mêmes critères. Cette association, donc, qui a un sigle relativement long, Association pour l'ouverture d'une structure d'accueil pour enfants aux eaux vives, est formée de parents désireux de placer leur enfant dans une structure qui permette son épanouissement, et ce, avec du personnel qualifié et à des coûts raisonnables. En effet, on peut estimer avec eux que c'est un droit pour les parents qui travaillent de placer leurs enfants dans des structures qui sont prévues à cet effet, avec du personnel compétent. De même que pour les mères qui ne travaillent pas, on peut estimer qu'elles peuvent également bénéficier de moments où leurs enfants sont avec d'autres du même âge. Actuellement, ces structures font cruellement défaut dans ce quartier et c'est un vrai casse-tête pour les parents pour trouver des solutions à ce problème. Si vous voulez nous contacter à ce sujet, vous pouvez écrire à la Maison de quartier des Eaux Vives, 56 route de Frontenay, 1207 Genève, avec la mention crèche-garderie.
Drink mesh, top trash. I'm gonna spend my money in the morning. Gonna have me one hell of a time till I see me a rooster sitting right in the middle of Rush Street crowing for the dawning. Wow.
Lundi après-midi, j'avais rendez-vous à la maison de quartier avec Madame Beffa, figure marquante du quartier. Valérie et Daniel, je crois que vous la connaissez bien. Elle vient souvent à la maison de quartier, elle est au groupe d'habitants, etc. Elle s'est beaucoup occupée d'histoire de locataires. Alors tout de suite, nous l'écoutons ce qu'elle nous raconte sur l'histoire du quartier. Madame Beffa, vous êtes née dans le quartier des Eaux Vives. Ça fait 65 ans que vous y habitez depuis que vous êtes née. Est-ce que peut-être vous pourriez nous raconter comment était ce quartier quand vous étiez petite fille et si les choses ont beaucoup changé depuis lors, soit dans les apparences extérieures, soit dans la vie du quartier?
Mais oui, il faut vous imaginer le quartier des Eaux Vives comme Carrouges l'est encore actuellement, avec des immeubles de 2, au maximum 3 étages sur rez-de-chaussée, qui était à l'époque déjà assez ancien, avec beaucoup de petites industries. Dans chaque rue, à peu près, il y avait des menuisiers, des scieries, fabrique de parfums, torréfaction de café. Il y avait énormément de commerce, beaucoup plus qu'actuellement, où la micro a fermé pas mal de magasins. Il y avait très peu de circulation, à peu près 2 automobiles par minute, pas plus. Et par contre, il y avait énormément de lignes de tramway. Il y avait évidemment le 12 qui existe toujours, il y avait le 5 qui montait à la gare des Eaux Vives, le 1 qui tournait autour de la ville, qui passait à la place des Eaux Vives, le 2 et le 9 qui suivaient la rue des Eaux Vives, le 8 qui montait à Verrier, et le 11 qui allait au plateau de Frontenay. Les Eaux Vives étaient alors encore une commune autonome et elle avait une gestion toujours bénéficiaire. Parce qu'elle avait l'avantage d'avoir à la fois une gare et un port, et les deux servaient à la fois pour les marchandises et les voyageurs. Elle avait deux grandes salles de spectacle, la salle communale et la salle de réformation. Il y avait souvent des représentations gratuites où les habitants se rendaient volontiers le soir.
Quel type de spectacle il y avait par exemple ?
Eh bien, il y avait beaucoup de projections à la salle de réformation, projections de photographies. Et puis de temps en temps, à la salle communale, il y avait plus souvent alors des comédies, des troupes du quartier ou d'autres quartiers venaient jouer aux eaux vives, gratuitement. Ensuite, en dehors, la campagne venait très vite. Déjà, la rue Montchoisy, en haut, la rue du 31 décembre, l'avenue de la Gare des Eaux Vives, tout cela, c'était des grandes campagnes, évidemment pas ouvertes au public, avec beaucoup d'arbres. Ce qui frappait alors, c'est qu'il n'y avait pas d'eau courante, on avait l'eau avec un réservoir. Dans chaque maison, il y avait un réservoir qui se remplissait, puis l'eau descendait comme ça. Ce qui, évidemment, avait comme conséquence souvent des pannes d'eau. Alors tout le monde se retrouvait avec des grosses casseroles ou des seaux au coin de la rue où il y avait une petite fontaine publique, ce qui favorisait, disons, les contacts. On avait aussi souvent des pannes d'électricité. Mais par contre, alors la voirie passait tous les jours avec des tombereaux tirés par des gros percherons qui m'impressionnaient énormément tellement ils étaient gros. Chacun connaissait leur nom et puis leur donnait un petit bout de pain sec ou du sucre. C'était assez amusant. En général, les gens se connaissaient. En tout cas, dans les maisons, dans les rues, les gens se connaissaient. Par exemple, pendant les beaux soirs d'été, chacun se retrouvait sur le quai des eaux vives au jardin anglais pour passer la soirée sur un banc dehors.
Enfin, donc la vie était plus, la vie de quartier était plus animée que maintenant.
Oui, oui, beaucoup plus animée. Quoi qu'il manquait déjà à l'époque des places. Hein. On n'a que deux places dans le fond, Prix-l'Évêque et la place des eaux vives. Il nous manque toujours ces places de délassement, en dehors des grands parcs bien sûr, mais à l'intérieur du quartier ça manque de place.
Et comment le quartier s'est transformé alors ? Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce qui a été transformé dans le quartier depuis cette époque-là ?
Alors c'est la disparition de ces maisons de moyenne hauteur, disons, qui ont été remplacées par, on a groupé des parcelles pour faire des grands immeubles, qui à leur tour ont subi une énorme démolition dans les années 70, 68 à 70, comme ça, pour même des immeubles avec tout le confort, des immeubles en pierre taillée, qui ont disparu au profit d'immeubles, disons, cage à lapins, où les loyers sont quatre fois plus chers. Et ça produit un changement total de la population du quartier. C'est plus du tout les personnes qui résidaient avant. Elles ont dû chercher ailleurs et puis elles ont été envoyées dans la banlieue, enfin dans la périphérie.
Ces changements, est-ce que c'est cela qui vous a décidé à vous engager dans la vie active et un peu de lutte pour améliorer la vie du quartier auquel je crois vous participez très activement actuellement ?
Enfin, un peu moins parce qu'avec l'âge, on se ratatine un peu, mais c'est évident que mon mari et moi, nous avons été victimes d'un délogement en 62. Nous avions un bel appartement de 4 pièces avec juste comme confort de l'eau chaude avec un appareil à gaz, mais notre immeuble a été transformé en 45 petits studios à 450 francs par mois, alors que nous payions à l'époque 105 francs par mois pour un 4 pièces. Et puis en voyant ce qui se passait autour de moi dans bien des rues avec d'autres connaissances qui souffraient aussi de tous ces logements, j'ai pris un engagement de conseillère de locataire pour les eaux vives à fin 1969.
Il y a un groupe d'habitants du quartier des eaux vives. Est-ce que vous y avez participé ?
Oui, j'ai participé depuis l'automne 1971 parce que je me trouvais seule comme conseillère de locataire. J'avais besoin d'être entourée et de partager les expériences. Alors avec ce groupement, J'ai participé à la lutte pour la conservation des cèdres de l'avenue de Chamonix, qui a duré très longtemps. J'ai fait pas mal de résistance collective avec des locataires, soit pour lutter contre des augmentations de loyers, soit pour lutter contre des logements ou des rénovations lourdes qui leur imposaient ensuite un loyer insupportable. Et le summum de ces luttes a été l'occupation par des squatters des deux immeubles à la rue Prinaville, 4 et 6, où j'ai pris pas mal de responsabilités. Ensuite, j'avais besoin d'avoir quand même des luttes moins dures. J'ai rejoint les habitants du secteur Frontenay-Gare des Eaux-Vives qui défendent la qualité de vie du secteur parce que c'est en pleine transformation pour bâtir certains immeubles, genre HLM, en particulier la Genevoise. Va faire 4 immeubles le long de la rue Violier en démolissant 2 rangées de garages. Et là, ça va faire tomber pas mal d'arbres qui sont sur des parcelles appartenant à la ville de Genève. Alors nous allons voir pour examiner ces arbres si c'est possible de les élaguer seulement au lieu de les abattre.
Oui, je vous remercie, Madame Beffa, de nous avoir accordé ce temps. On peut juste dire qu'on est à la maison de quartier. Nous y reviendrons à d'autres occasions et je crois qu'elle héberge très souvent les gens pour diverses activités dans le quartier. Vous y venez souvent, quant à vous?
Oui, bien sûr. J'ai organisé 2 soirées, une pour les réfugiés et une contre la propriété par étage.
Et notre balade continue. Daniel et Maria m'ont proposé de les rejoindre à 4h moins de quart à la sortie de l'école des eaux vives pour y rencontrer des parents et des enseignants. Le lieu entre l'école et les parents semble là très important et nous nous sommes retrouvés dans la montée d'escalier des classes enfantines.
Oui, je trouve que c'est important. En tout cas, notre expérience est très bonne. Les enseignants sont très ouverts. Chaque fois qu'on a cherché le contact avec eux, on n'a pas eu de problème. C'était très facile. Et puis, la communication est en général très bonne, ça passe. Les enseignants ont aussi souvent pris l'initiative d'organiser des activités avec les parents, mais aussi les parents ont pris aussi des initiatives pour organiser des activités dans la classe des enfants. Il y a pas mal de parents qui sont venus raconter leurs expériences, par exemple. Dans les classes, je pense, de l'école, il y a beaucoup d'enfants de différentes nationalités. Alors, les enseignants ont pris l'initiative, par exemple, de favoriser les contacts interculturels, d'inviter les parents de différentes cultures pour qu'ils racontent un peu, soit des histoires de leur culture, soit qui vient faire la cuisine de chaque pays, etc. Bon.
C'est très important et je pense que dans cette école, il y a une très bonne ambiance, entre autres des très bons contacts entre les parents eux-mêmes, même s'ils sont de différents degrés.
Ça, je pense. Ça dû à quoi, vous croyez?
Parce que c'est un quartier sympa, très bien habité.
Mais l'école a favorisé ce contact, vous pensez? Les gens se connaissaient de toute façon en dehors de l'école.
Ça datait déjà d'avant du jardin d'enfants et puis du parc.
Le parc au lieu de rencontre?
Oui, très au lieu de rencontre entre parents et enfants.
Alors, on retrouve bien sûr Daniel et Maria qui sont toujours avec nous et qui peut-être peuvent dire, elles, leur expérience en tant que mère liée à l'école. On était au jardin d'enfants ce matin, maintenant on est à l'école parce que leurs enfants sont aussi à l'école.
Oui, moi j'ai fait de la linogravure avec des enfants de deuxième et première enfantine. Enfin, dans les classes de mes propres enfants, j'entends. Et bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que ça fait partie de mon métier, parce que ça m'a donné l'occasion de connaître les copains de mes enfants. Et puis pas seulement parce qu'ils sont les copains de mes enfants, parce que c'est très sympathique. Enfin, je trouve le contact avec les enfants très sympathique. Puis ça m'a permis aussi de pratiquer un métier que je ne pratique plus depuis un bon moment. Et ça me, disons, ça me décontracte peut-être un petit peu du reste de mon travail de mère, ménagère, etc. Ce qui n'est peut-être pas un mal. Disons que je me suis fait autant plaisir moi-même en faisant ça, j'entends. Et puis, bon, à part ça, entre les parents, je trouve qu'on a des rapports presque exceptionnels à voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, disons, savoir qu'on peut se reposer sur d'autres gens si jamais on a des retards, si jamais on n'est pas là au moment où nos enfants sortent de l'école ou au moment où ils jouent au parc et que il y a d'autres gens qui vont les regarder, il y a des gens qui feront attention à eux, qui ne seront pas... bon, ça peut nous arriver, je ne sais pas, un embouteillage, n'importe quoi, un malade, on se fait renverser dans la rue, mais savoir qu'il y a des gens qui les prendront en charge, ça c'est très très agréable, c'est vraiment...
Est-ce que vous voyez les uns les autres en tant que parents en dehors des histoires d'école?
Je pense que ça, c'est important. Le fait qu'on peut s'entraider avec les enfants nous permet de nous connaître mieux. Et puis, je crois qu'on sort assez souvent ensemble pour des activités tout à fait autres, cinéma, concert. On se voit à la plage, à la petite plage du quartier, à la piscine. Enfin, on se voit aussi tout à fait en dehors pour d'autres activités.
Ernestine Anderson, vous écoutez Ménage-toi sur Radio Zone 93.8.